Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dans le monde des contraceptions, les femmes, à l'inverse des hommes, bénéficient d'un large éventail de contraceptifs. Depuis l'apparition et l'utilisation des moyens contraceptifs, la contraception repose principalement sur les épaules des femmes pour différentes raisons. Cette responsabilité vécue seule peut entraîner une charge psychologique, mentale et physique. Dans cet épisode, nous allons uniquement aborder la contraception pour les femmes. Les contraceptions dites masculines seront abordées dans 2 épisodes la semaine prochaine. Pour parler contraception dite féminine, j'ai fait appel à une sage-femme. Et oui, car la sage-femme assure l'information en matière d'éducation sexuelle, de contraception, de prévention des infections sexuellement transmissibles. Elle peut prescrire tous les moyens de contraception et pratique même les vaccinations nécessaires. Charline Gaillot est sage-femme. Vous la connaissez peut-être sur Instagram ou YouTube sous le nom Charline Sage-Femme. Elle a à cœur de délivrer de l'information ludique et accessible sur la gynécologie et l'obstétrique. Son but ? Expliquer, nuancer, dédiaboliser. Et nous permettre de comprendre notre corps ou celui de notre partenaire pour vivre pleinement notre vie. Charline, bienvenue sur Camille parle sexe.
Bonjour, merci beaucoup pour ton accueil Camille.
Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast et ça fait un moment qu'on en parle et on arrive finalement à coller nos agendas et à le faire, donc je suis contente. Du coup, aujourd'hui, on va parler des contraceptions dites féminines et pour ça, on les a divisées en différentes catégories. Il y aura les contraceptions hormonales, les contraceptions dites barrières mécaniques, les contraceptions naturelles, les contraceptions d'urgence et contraception par stérilisation aussi. Charline, déjà, qu'est-ce qu'un moyen de contraception et pourquoi en utiliser un ?
C'est une bonne question. Un moyen de contraception, eh bien, c'est une technique qu'on peut utiliser dans le but de ne pas avoir de grossesse. Clairement, c'est ça en fait. Donc, pourquoi en utiliser un ? Eh bien, c'est lorsqu'on a des rapports à possibilité de grossesse et qu'on ne souhaite pas avoir de grossesse. C'est important pour moi de dire à possibilité de grossesse parce que forcément, on peut avoir une vie sexuelle et ne pas avoir besoin de contraception. C'est le couple, par exemple, c'est le cas, par exemple, des couples homo. C'est le cas aussi des couples, par exemple, qui ne font jamais de sexe avec pénétration. Donc, si on a des relations avec pénétration, concrètement la possibilité que des spermatozoïdes rencontrent des ovocytes, eh bien, et qu'on ne souhaite pas de grossesse, dans ces cas-là, on peut choisir un moyen de contraception.
J'aime beaucoup ce que tu as dit comme terme, ouais. À possibilité de grossesse, comme ça, c'est vraiment aussi inclusif. Donc, merci pour cette précision. Et du coup, par rapport aux contraceptions, est-ce qu'on peut aborder déjà les contraceptions hormonales, parce que c'est souvent celle dont on parle le plus?
Alors, effectivement, c'est souvent celles dont on parle le plus, les plus connues, et puis celles parfois qui sont proposées en première intention. Moi, j'aime quand même expliquer qu'il existe deux types de contraception hormonale, les contraceptions œstroprogestatives et progestatives. Je sais que parfois, quand on donne les noms des molécules, ça peut décontenancer ou faire un peu peur les personnes qui nous écoutent. Mais sans se prendre la tête, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a deux grandes familles. Globalement, elles sont aussi efficaces, mais elles n'ont pas tout à fait les mêmes contre-indications et elles n'ont pas forcément les mêmes inconvénients. Après, le but, c'est pas de tout retenir parce que c'est le but d'une consultation avec son soignant, mais juste de comprendre grosso modo les grandes différences. Je trouve que ça peut être intéressant pour se sentir actrice, acteur de sa santé.
Ouais, c'est vrai que c'est important et comme tu dis, quand tu parles directement, c'est vrai que ça peut perdre les personnes, mais comme tu dis, c'est intéressant d'avoir cette information, surtout en termes de contre-indications. Tu parlais des contre-indications. Quelles sont-elles, ces contre-indications?
Alors, les contraceptions œstroprogestatives, donc ça veut dire qu'il y a des œstrogènes et des progestatives dedans, c'est la pilule la plus connue, celle avec un peu un schéma de prise, 3 semaines de prise, 1 semaine de pause, 3 semaines de prise, 1 semaine de pause. Et c'est également ça dans le patch contraceptif et l'anneau contraceptif. Les œstroprogestatives, ces contraceptions-là, elles ont surtout comme contre-indication les problèmes qu'on va dire vasculaires. C'est-à-dire, si moi-même ou si mes parents, donc vraiment au premier degré, on a des antécédents importants, ça peut être des phlébites sans raison particulière, des parents qui ont déjà fait un AVC, une embolie pulmonaire, eh bien, ça peut contre-indiquer cette prise de contraception-là parce qu'on sait que la pilule œstroprogestative peut augmenter le risque vasculaire, donc le risque d'AVC, d'embolie pulmonaire, de phlébite. Je vais tout de suite nuancer ce que je viens de dire, parce que là, déjà que la pilule, ça fait peur à beaucoup de monde. Il y en a beaucoup qui vont se dire « Ok, super, je vais faire une phlébite ». Non, c'est important quand même de rappeler que la pilule n'augmente pas plus le risque de phlébite qu'une grossesse.
Intéressant.
On ne s'empêche pas d'avoir une grossesse parce qu'on a peur d'avoir une phlébite.
C'est vrai.
Par contre, la contraception, comme il y a différents choix, en l'occurrence, pour avoir un enfant, il y a peu d'autres choix que d'être enceinte, en tout cas en première intention. Comme la contraception, il y a d'autres choix. Et ben, si on a un risque faible, c'est OK de prendre l'œstroprogestatif. Si on a un risque important, là, ça vaut pas le coup. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on prescrit les contraceptions lors d'une consultation médicale avec sage-femme, médecin généraliste ou gynécologue, parce qu'il existe des contre-indications. Et on existe d'autres également, des problèmes au niveau du foie, etc., des cancers. Enfin, il existe pas mal de contre-indications qui sont évaluées lors de la consultation. Et il y a également, bien évidemment, des contre-indications pour les contraceptions progestatives. Donc là, ça va être la pilule en continu, celle qui se prend sur 28 jours. Ça va être l'implant, le stérilet hormonal. Mais les contre-indications sont vraiment beaucoup moins fréquentes. Et donc, on évalue. Mais voilà, les contre-indications, c'est un peu la partie la plus médicale et la plus, j'ai envie de dire, les personnes qui écoutent ce podcast-là, vous pouvez vous en détacher. Juste, sachez, quand vous allez consulter, si vos parents ont déjà eu des problèmes de santé et si vous en avez déjà eu. Exemple concret, si j'ai des migraines avec des troubles neuro, je peux prendre la pilule progestative alors que je peux pas prendre la pilule œstroprogestative. Donc voilà, ça, on évalue. Après, peut-être, je sais pas, si tu veux, j'aborde les effets secondaires parce que souvent, c'est un peu...
Oui, c'était la question, justement. Ouais, si justement, on veut se tourner... Déjà, mais des questions qui me venaient, c'était effectivement les effets secondaires. Et puis, pourquoi une femme se tournerait vers les pilules progestatives ou pourquoi vers les pilules œstroprogestatives aussi?
Ouais, c'est une bonne question. Un peu, à quel est le modèle type qui correspond à telle contraception? Au niveau des effets secondaires, c'est important de savoir que toutes les contraceptions ont des inconvénients. Franchement, 100% des contraceptions ont des inconvénients. On aimerait, je pense, toutes et tous, pouvoir avoir des relations sexuelles et presque appuyer sur un bouton « je désire avoir un enfant » ou « je ne désire pas en avoir ».
Ah, s'il te plaît, si tu peux l'inventer.
Le simple fait, en fait, de se dire « ok, je vais devoir prendre un truc ». En fait, le simple fait qu'aucune contraception n'est fiable à 100%, c'est un inconvénient. Rien que ça. Et donc, du coup, toutes les contraceptions ont des inconvénients. Le but, c'est de trouver la contraception à un moment T de la vie qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Les inconvénients des hormones, eh bien, ça va être justement les effets que peuvent donner les hormones, tout en sachant que les hormones peuvent également avoir des avantages. On va parler des inconvénients en premier pour une fois. Ben, on ne sait pas d'avance comment on va réagir aux hormones. Donc, en fait, quand on regarde les notices, ça peut faire flipper de voir tous les effets indésirables possibles. Mais en fait, c'est un peu le jeu de la loterie. Certaines personnes vont dire moi, franchement, ça roule, j'ai rien à dire. Et d'autres vont avoir 90% des trucs possibles, quoi. Donc, c'est vraiment injuste. Qu'est-ce qu'on peut ressentir avec l'une et l'autre? Eh bien, donc, progestative ou oestroprogestative, il peut y avoir des changements au niveau de l'humeur. Parfois, ça peut être comme si on descendait d'un cran en termes de jovialité. Également, comme ça lisse le cycle, pour certaines, ça va être un avantage, le fait de plus avoir un gros down en syndrome prémenstruel, un gros up après, un peu l'effet yo-yo. Ça peut être parfois un peu plus stable, ce qui peut être confortable pour certaines. Et pour d'autres, vraiment beaucoup moins fun. Parfois, ça peut jouer sur le poids. Alors, pas directement les hormones, mais c'est vrai qu'on peut parfois stocker davantage, faire plus de rétention d'eau. Ça peut également augmenter l'appétit. Ça peut changer la lubrification vaginale. Donc, il peut y avoir plus de sécheresse avec l'une comme avec l'autre, mais plus avec les progestatives quand même. Ça peut avoir un impact sur l'acné. Alors, autant les œstro-progestatives vont parfois diminuer l'acné, autant les progestatives, ça va parfois être l'inverse. Idem au niveau de la pilosité. Œstro-progestatives, ça va parfois diminuer un peu quand on est gêné, alors que les progestatives, ça peut être l'inverse. Je dis toujours ça peut, hein, parce qu'il n'y a pas de 100%. J'ai l'impression d'oublier un truc super important. Je suis sûre que les personnes qui m'écoutent me disent « Mais oui, t'as pas parlé de... qu'est-ce que j'oublie ?»
Bah, en attendant, pendant que tu réfléchis, je voulais rebondir aussi sur justement les femmes qui justement veulent se dire bah, « Je veux moins d'acné, peut-être moins de pilosité ou en tout cas voilà mieux gérer cette pilosité » vont peut-être plus se tourner du coup vers les pilules ostro-progestatives du coup, j'imagine.
Oui, bien évidemment. Mais après, ça, c'est tellement une... Vraiment, la contraception, c'est tellement, tellement une discussion parce que ça entre en jeu dans plein, plein de choses. Et puis, il y a peut-être un bilan hormonal à faire avant. On a tellement plusieurs problématiques au sein d'une même personne que je ne peux pas être si catégorique pour autant.
Oui.
Tu vois, c'est vraiment à part les contre-indications médicales qui sont formelles et encore, parfois, il y a des feux orange. Ben, en fait, c'est pas si tout blanc, tout noir.
Oui.
C'est pas si évident.
Et alors, est-ce que la pilule peut impacter la libido ?
Eh ben oui, c'était ça le truc que j'oubliais. Oui, alors, certains disent que non, mais clairement, il y a des études qui disent que oui. Mais en fait, juste objectivement parlant, le fait que ça lisse le cycle, en fait, qu'il y ait un apport d'hormones extérieures, fait qu'on n'a plus son propre cycle hormonal. Et bah, mine de rien, le cycle physiologique, le cycle naturel, clairement, il est basé sur « et si là, tu étais fertile et que tu avais envie d'avoir des rapports, ça nous arrangerait parce que pour la survie de l'espèce. » Donc, le fait d'avoir des variations hormonales, ça peut jouer sur la libido, mais aussi, en fait, c'est bête et on n'y pense pas toujours quand on parle de contraception. Mais n'oublions pas que la libido, c'est multifactoriel, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre.
Oui.
Et du coup, chez certaines personnes, le fait de finalement être protégée 100% du temps, il y a un côté, c'est un peu moins dangereux. C'est terrible à dire parce qu'on ne veut pas de grossesse. Mais en fait, il y a un petit côté où on a envie, mais ce n'est pas bien parce que peut-être qu'on ne devrait pas, et que c'est risqué. Et c'est un peu excitant, le risque. Et à l'inverse, pour d'autres, le fait de se sentir protégé 100% du temps, c'est une liberté qui peut augmenter la libido. Parce qu'en fait, ça y est, je suis libre d'avoir des rapports quand j'en ai envie. Et en fait, cette liberté, c'est moins de charge mentale, moins de stress et du coup, plus d'espace pour que la libido puisse naître. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas si évident lors d'une baisse de libido de se dire « j'arrête la pilule, ça va revenir ». Ce n'est pas si flagrant.
C'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'en séance, souvent quand justement les femmes consultent pour une baisse de libido, vont dire j'ai déjà essayé d'arrêter ma contraception parce que je me disais donc ma contraception hormonale est souvent la pilule parce que j'ai lu que ça pouvait impacter donc je l'ai arrêté et puis finalement ça n'a rien changé.
Déception.
Déception. Et je dis oui effectivement c'est pas que oui ça peut impacter mais pas forcément non plus. Ça peut être aussi, comme tu disais, avec d'autres facteurs, avec une combinaison de facteurs, et donc c'est à creuser, quoi.
Exactement. Et puis, mine de rien, la plupart des personnes qui prennent des contraceptions ont des relations qui commencent à durer, et mine de rien, une relation qui dure peut être un facteur parfois de baisse de libido.
Ça peut être moins excitant. Moins excitant, il y a la charge mentale, la relation qui flanche peut-être, où on fait toujours les mêmes choses. Ça aussi, ça joue bien plus qu'une prise de pilule.
Exactement. Donc c'est comme tu dis, plein d'éléments combinés. Et j'ai quand même envie de parler des avantages, parce qu'il y en a.
Oui.
Les avantages des contraceptions hormonales. Donc vraiment, peu importe que ce soit pilule, anneau, patch, stérilet, implant, les avantages des hormones, mine de rien, c'est que ça peut rendre la vie plus douce pour les personnes qui sont gênées par des troubles du cycle, par des douleurs de règles, par des douleurs de cycle. Ça ne va pas traiter les causes telles que l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques ou d'autres soucis, mais ça peut traiter les symptômes. Et soyons honnêtes, en fait, quand on a des douleurs handicapantes et qu'on a essayé peut-être des choses plus naturelles ou en complément de choses plus naturelles, ça peut soulager la vie de certaines personnes. Et en fait, c'est non négligeable, au même titre qu'en fait, c'est bête, mais c'est des contraceptions. Si je reviens aux pilules, c'est des contraceptions simples. En fait, c'est quand même la pilule, la contraception qu'on peut prendre et qu'on peut arrêter presque du jour au lendemain. Si jamais ça ne nous convient pas, ça ne demande pas de faire un examen gynécologique, contrairement au stérilet, qui rebute beaucoup de monde parce que c'est un acte invasif. L'implant, ça demande de prendre un rendez-vous aussi, de le mettre. Est-ce que ça va m'aller? Si ça ne me va pas, mine de rien, j'ai quand même mis un truc en place dans mon bras. Je ne sais pas si j'ai envie de le retirer. Ça, c'est très individuel.
Oui, tu disais, les contraceptions, si on veut les retirer comme le stérilet ou l'implant, il faut passer par un rendez-vous. Alors que la pilule, comme tu disais, on peut l'arrêter et à tout moment, quoi.
Exactement. Donc, ce qui est un avantage ou un inconvénient, également, ça dépend du contexte, mais c'est juste parce que j'aime bien soulever ce genre de questions, parce que je sais que ça peut résonner chez les personnes qui se questionnent sur la contraception. Et en fait, vraiment, pour les personnes qui nous écoutent, sachez que tout ce que je dis là, j'essaie vraiment de le dire de manière la plus neutre possible, parce que j'aime dire qu'il y a différentes questions à se poser quand on choisit une contraception. Et en fait, c'est la somme de ces questions-là. Est-ce que j'ai envie d'une contraception à laquelle je pense tous les jours ou à une contraception à laquelle je ne pense qu'au moment des rapports ou une contraception, justement, je la mets une fois en consulte et après, j'ai plus besoin d'y penser pendant 3 ans. Eh bien, ça va résonner d'une manière ou d'une autre chez une personne ou une autre.
Ouais. Et comme tu disais, c'est justement, en fait, en termes de contraception, c'est vraiment une discussion d'avoir de soi à soi, mais de soi peut-être aussi avec son partenaire et de soi avec sa professionnelle de santé, parce que c'est vraiment à différents moments de vie. Et d'ailleurs, on le voit, peut-être que tu le vois aussi en cabinet, mais à différents moments de vie, on va peut-être pas utiliser la même contraception, comme tu disais, selon si on a envie que de ne plus y penser, ou alors on a envie d'être libre et de la prendre et de l'arrêter à tout moment. Tu vois, par exemple, moi, sur mon parcours, adolescente, c'était la pilule. Puis après, il y en a eu marre de la pilule. Puis après, c'était les préservatifs. Puis après, c'était le stérilet. Puis après, il y en avait marre du stérilet. Et puis, c'est préservatif à nouveau. Enfin, voilà, il y a beaucoup de fluctuations aussi en termes de contraception.
Complètement. Et puis, ça dépend beaucoup du couple, effectivement, comment on en parle, comment on se sent par rapport à ça, mais aussi de ce que le couple a vécu. En fait, quand on parle de contraception, j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, on parle que des ados qu'on qualifie souvent d'inconscientes et qui risquent de tomber enceinte en 2 secondes. Et du coup, il faut à tout prix mettre une contraception tout de suite. Et on oublie qu'en fait, la contraception, c'est une question que les couples se posent clairement jusque la ménopause. Sauf que c'est bête, mais comme la fertilité n'est pas la même, c'est aussi parfois on se lâche un peu la grappe à 40 ans versus quand on a 18 ans. Également, un couple qui a mis 2 ans pour avoir un enfant, va peut-être pas vouloir repartir sur le même type de contraception. Peut-être qu'après un accouchement, on va se dire franchement, on veut pas de grossesse. On sait bien que la méthode du retrait, c'est pas une méthode fiable. Mais en fait, en réalité, si demain il y a un enfant, ce sera une joie dans notre couple. Mmh. Et c'est pour ça que, enfin, je casse un peu le plan, mais si tu veux, je vais être un peu plus.
Ah, j'adore.
Plus droite.
En fait, ça parle aux gens parce que c'est vraiment toutes les spécificités de chacun et de chacune et que c'est pas si simple que ça. Même si on reçoit cette information-là, finalement, on se l'approprie. Puis, bah oui, comme tu disais, par la méthode du retrait, on le sait, mais du coup, on ajuste, on fait une balance finalement.
Et ben c'est ça. Et en fait, c'est pour ça. En fait, il y a beaucoup de monde parfois qui s'offusque quand je fais des posts sur Instagram où j'inclus la méthode du retrait. Beaucoup me disent, mais en fait, Charline, c'est pas une méthode de contraception. Presque en parler, ce serait le recommander. Et en fait, moi, je dis toujours aux patients, je ne peux pas vous recommander cette méthode. Mais en réalité, quand ça fait 4 ans que tu essaies d'avoir un enfant, que tu viens d'en avoir un, en fait, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de te prendre la tête et que tu te dises, non, mais franchement, si j'ai un bébé retour de couche, bah oui, ça m'arrange pas. Mais en fait, au pire, tant pis. Et puis, qui suis-je pour juger ? Mais le tout, en tout cas, c'est que chaque personne qui choisit sa contraception ait suffisamment d'informations pour faire un choix en conscience. C'est juste ça, en fait, qu'on sache les risques, les inconvénients, les avantages de chaque contraception, l'efficacité et dans quelle mesure ça impacte aussi mon couple. Parce que oui, soyons honnêtes, c'est une charge mentale la contraception, beaucoup plus ces derniers temps, parce que le fait que les femmes et toute personne menstruée se questionnent sur la contraception et sur la charge contraceptive, ça peut impacter aussi sur le couple, ce truc de « j'en ai marre de tout gérer ». Donc, c'est vraiment un choix très global et pas si simple. Donc, si quand vous nous écoutez, vous dites « c'est vrai que ça fait chier
», vous avez le droit.
C'est vrai. C'est vrai. Et après, ça reste un choix de se dire « ok, ça me fait chier, mais je choisis une contraception qui me fait chier, mais en vrai, qui correspond à mes besoins. » C'est ok que ce soit pas 100% parfait, parce qu'aucune contraception n'est 100% parfaite.
Ouais, c'est bien de le rappeler aussi, parce que c'est vrai que souvent, on aimerait bien juste de pouvoir sexer sans se prendre la tête. Et non, en fait, finalement, on est quand même obligé de penser à certaines choses et surtout à sa santé et à ce qu'on souhaite aussi dans son chemin de vie. Donc, c'est important. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport aux contraceptions hormonales avant de passer aux contraceptions barrières ?
Si tu veux, je vais juste refaire un petit point de comment ça se prend. Comme ça donne un petit état des lieux. Donc, la pilule œstroprogestative, le plus généralement, c'est un schéma de prise avec 21 jours de prise, une semaine de pause. Et il est possible de faire sauter cette semaine de pause, donc semaine de pause ou semaine de placebo, et en fait de faire 3 semaines de comprimés actifs. Et j'enchaîne tout de suite avec une nouvelle plaquette, 3 semaines de comprimés actifs. Si toutefois j'ai envie de faire sauter mes règles, peu importe la raison, il n'y a pas de danger pour la santé. De toute façon, oui, ça dérègle le cycle, mais ce n'est pas un cycle naturel vu que vous prenez des hormones. Donc en fait, arrêtons de dire ça dérègle tout. Vous prenez déjà un truc qui ne règle, qui dérègle en fait ce que vous avez en vous. L'anneau contraceptif, là, c'est un anneau qui se met dans le vagin, c'est un anneau en silicone qui n'est pas remboursé, c'est important de le dire, et qui peut rester en place 3 semaines. On l'enlève une semaine pour faire la semaine de pause et on le laisse en place 3 semaines. Donc, c'est toujours le schéma de prise 3 semaines, une semaine de pause, mais c'est le même anneau pendant 3 semaines et on change tous les mois d'anneau. C'est pas le même qu'on remet. Et ensuite, le patch, c'est un patch qui ressemble un peu au patch anti-tabac qu'on place sur une zone du corps. Et là, on le change toutes les semaines pendant 3 semaines. Et après, de la même manière, on a notre semaine de pause. Ça, c'est les contraceptions œstroprogestatives et les contraceptions progestatives. Les pilules microdosées, c'est généralement 28 jours de prise et on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne. À noter juste que les progestatives, contrairement aux œstroprogestatives, et c'est pour ça qu'on ne les prescrit pas à tout le monde alors que ça a moins de risques vasculaires, c'est parce qu'en termes d'effets secondaires, une personne sur 3 va être en aménorrhée, donc sans règles, ce qui est un avantage ou un inconvénient. Une personne sur 3 va avoir des règles régulières, mais en faible quantité, ce qui souvent est apprécié par beaucoup de monde. Mais par contre, une personne sur 3 va être dérangée par des spottings. Et les spottings, c'est un peu tout ou rien. Donc, c'est des saignements discontinus, inopinés, qui peuvent soit être une fois tous les 6 mois, soit clairement être là une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours, en plus ou moins forte abondance. Donc, ce qui peut être clairement très handicapant et très relou. Mmh. Mais quand même, à noter que 80% de ce tiers-là, au bout de 3 à 6 mois, ne sera plus embêté par des spottings. Donc, parfois, ça vaut le coup d'être patient. Mais c'est quand même à noter que chez certaines personnes, les spottings persistent et en fait, ça peut contre-indiquer, ça peut faire qu'on n'a plus envie de cette contraception, bien que le fait que le stérilet hormonal, le fait qu'il soit local, souvent diminue ces soucis de spotting. Donc encore une fois, ça dépend. Et donc, la pilule, je l'ai dit, l'implant, ça se met en place dans le bras, ça reste en place 3 ans. Ça peut bien évidemment être enlevé plus tôt. Et le stérilet hormonal, il en existe 3 types. Il y en a un qui peut rester en place 3 ans et 2 qui peuvent rester en place jusque 5 ans. Voilà, pour les trucs un peu factuels. Et en termes d'efficacité, tout ce que je viens de citer, on est sur le top 2 des contraceptions les plus efficaces. Enfin, top, on va dire, il y a l'implant, le stérilet hormonal, et en 3, ce sera le DIU au cuivre, et en 4, la pilule, parce que la pilule, il y a quand même un risque d'oubli plus important, et donc ça baisse l'efficacité globale.
C'est ce que j'allais dire, ouais. Avec l'implant et le stérilet, bah là, il n'y a pas de risque d'oubli, puisque voilà, c'est dans le corps, c'est inséré dans le corps, donc il n'y a pas de manipulation à réaliser. Je t'ai pas mentionné, et c'est vrai qu'on ne le mentionne pas forcément, est-ce que c'est une pratique d'ailleurs qu'on fait ici, que ce soit en France ou en Belgique, les injections contraceptives intramusculaires ?
Ah oui, c'est vrai. Ben, tu fais bien de m'en parler parce que ça se fait plus en Belgique qu'en France. Okay. En France, on en fait assez peu et du coup, c'est j'oublie souvent d'en parler. Souvent, à la fin de mes consultes contraception, j'en parle une dernière fois.
Oui, ça existe.
Effectivement, parce qu'il y a des effets secondaires qui sont parfois plus importants et pourtant, ça peut être intéressant parce que c'est souvent des injections d'hormones progestatives qui peuvent être faites à peu près tous les 3 mois. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, il y a un peu ce truc, c'est une injection, donc c'est une piqûre, ce qui pour certains c'est très banal et pour d'autres inenvisageable, mais c'est vrai qu'il y a cet avantage de, une fois tous les 3 mois, je prends mon rendez-vous, hop, injection, et puis c'est reparti pour 3 mois. C'est vrai, c'est quelque chose de possible. Parfois, il y a plus d'effets secondaires pour la santé, donc c'est à évaluer. C'est vrai que c'est pas forcément une contraception qu'on propose en première intention.
D'accord, ok, ouais. Oui, moi je me souviens dans mes cours quand notre professeur nous en parlait, il en parlait surtout dans certains pays d'Afrique et même dans des villages reculés, etc., que les médecins venaient tous les 3 mois à peu près pour justement faire l'injection sur les femmes, et comme ça elles n'ont pas plus besoin d'y penser pendant 3 mois et elles sont protégées, mais effectivement il y avait quand même des effets secondaires sur le corps puisque c'est hormonal et c'est une grosse prise.
C'est une grosse dose.
Ok, super. Merci beaucoup pour ces précisions.
Merci pour cette question.
Et alors, les contraceptions barrières mécaniques, ça inclut quoi comme contraceptif ?
Alors, les contraceptions barrières mécaniques, alors moi, j'avoue que je ne sais pas si on classe, tant d'un coup, j'ai un doute. Est-ce qu'on classe le DIU au cuivre là-dedans ?
Oui. Le stérilet en cuivre, oui, on le place dans les barrières mécaniques il n'est pas hormonal celui-là, mais il est comme une barrière en fait.
je me pose la question toujours parce que moi à chaque fois je visualise vraiment le côté barrière, tu vois, et en l'occurrence ça se visualise très bien avec le diaphragme, les préservatifs, autant comme le cuivre a vraiment une action de par le cuivre sur l'utérus, enfin tu vois, c'est pas genre le stérilet qui est un gardien de but et qui empêche les spermatozoïdes de rentrer parce que avec ses branches il arrête les spermatozoïdes, donc c'est pour ça que je me questionne. Disons en tout cas les méthodes, on va le mettre dans les méthodes barrières. Le DIU au cuivre, on entend de plus en plus parler. Donc le DIU, pour rappel, c'est ce petit truc souvent en forme de T souple qui fait pas plus de 3 cm et qui s'insère dans l'utérus, donc lors d'un examen gynécologique. Le DIU au cuivre, il a, j'allais dire pour avantage, mais pas forcément parce que ça peut être un avantage des hormones. Il a pour caractéristique d'être sans hormones, ce qui est un avantage ou un inconvénient. En fait, le cuivre, il agit de différentes manières et en gros, il rend l'utérus impropre à la nidation. Il empêche les spermatozoïdes d'avancer facilement, il empêche les gamètes, si toutefois elles se sont rencontrées, d'avancer facilement vers l'utérus, de s'implanter dans l'utérus et elle modifie également, enfin le stérilet modifie également la glaire cervicale et donc ça rend encore plus difficile l'acheminement des spermatozoïdes.
C'est ça, le pH du vagin peut être modifié, enfin, est modifié avec la présence du cuivre, quoi.
Exactement. Le cuivre, les effets secondaires les plus importants, c'est qu'il augmente généralement l'abondance des règles et la douleur des règles. Du coup, on comprend bien que si déjà on est handicapé par ces deux points-là, c'est pas une contraception qu'on recommande du tout. C'est même contre-indiqué dans le cadre de l'endométriose. Par contre, quand on a des règles, j'allais dire, somme toute normales en termes de sensations et d'abondance, c'est une contraception qui peut être intéressante. C'est une contraception très efficace. bien évidemment pas efficace à 100%. Il y a des risques que ce soit rejeté, que ce soit mal placé ou juste que ce soit pas suffisamment efficace parce que des personnes sont très fertiles. Et ça peut être mis en place et ça peut rester la plupart des DIO cuivre, c'est 5 ans. Il y en a même pour qui c'est 10 ans.
Ah ouais, 10 ans, d'accord. Ouais. J'avais en tête 7 ans, mais ouais, jusqu'à 10 ans.
Exactement. C'est une contraception dont on parle de plus en plus et c'est important de rappeler que le stérilet ou le DIU, donc DIU pour dispositif intra-utérin, ça peut être posé même chez les personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est bon, les études qui sont rassurantes sur ce point-là sont sortis depuis maintenant un moment, on peut leur faire confiance. On se pose toujours la question, est-ce qu'il y a plus de risques d'infection ? C'est quand même un corps dans l'utérus.
Oui, puis donc tu parles d'inflammation quand même, une inflammation de l'endomètre, donc ça peut poser question.
Ça peut poser question. C'est, parfois, on dit attention aux personnes qui, on va dire, sont plus à risque. Donc, c'est-à-dire les personnes qui ont des partenaires multiples ou fréquents, différents, parce que forcément, elles s'exposent à plus de risques d'infection sexuellement transmissible. Quid, c'est une vraie question. Moi, j'avoue que c'est une discussion que j'ai avec mes patientes. En fait, je trouve que ce n'est pas à nous, soignants, là je prends position, j'avoue, de dire désolé, vous avez des partenaires multiples, donc du coup vous êtes plus à risque d'infection. Et donc, disons que est-ce que le stérilet pourrait potentialiser peut-être une infection au niveau des trompes ? C'est une question qu'on peut se poser. De toute façon, les personnes qui ont des partenaires multiples, de plus en plus, en fait, sont presque plus au fait de l'importance de se protéger des infections que les personnes qui n'ont pas de partenaires multiples ou de manière plus occasionnelle. C'est tout, en fait. On fait les bilans IST régulièrement, on prescrit des préservatifs. Le risque de grossesse est également plus accru quand on a plus de relations sexuelles, en fait, juste de manière absolue et statistique. Donc, en fait, une contraception efficace, c'est essentiel pour moi chez ces personnes-là. Donc, ça ne contre-indique pas. C'est juste intéressant d'avoir cette question et d'informer les patientes quand même sur ce sujet-là, mais ce n'est pas une contre-indication.
Ok. Et le DUI, du coup, c'est le médecin, gynécologue, sage-femme qui peut le mettre en place ?
Tout à fait. Les trois, en tout cas en France, c'est le cas. C'est important de préciser parce que les sages-femmes n'ont pas les mêmes compétences dans tous les pays. Mais en tout cas, en France, oui, ces trois professionnels-là peuvent en poser, tout en rappelant que ce n'est pas parce qu'on a des compétences qu'on les met tous en place. Donc, certains généralistes ne posent pas de DIU, certaines sages-femmes ne le font pas non plus. Voilà. Mais en tout cas, tous ces professionnels-là sont habilités à le faire.
Ok. Et alors quand même la question que souvent revient avant même de penser ou même en se disant ça y est, j'ai mon rendez-vous pour me faire poser mon stérilet, la question de la douleur.
Ah oui, est-ce que la pose ça fait mal ? Ça rebute beaucoup de monde, hein, c'est vrai, d'avoir un DIU à cause de la douleur. Je peux pas dire que tout le monde arrive hyper heureux et qu'après on me dise franchement je refais ça demain quand vous voulez. Déjà c'est un examen gynécologique qui dure un peu plus longtemps que juste quand on regarde avec un frottis. On passe dans le col de l'utérus et on arrive dans l'utérus. L'utérus c'est un muscle et quand il y a un truc dans l'utérus, l'utérus contracte. Du coup oui ça contracte et en fait c'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais eu de DIU, jamais eu de grossesse, c'est la première fois qu'il y a un truc dans l'utérus et du coup cet utérus se dit « Oh, moi, j'ai rien demandé !» Et il le fait savoir, plus ou moins fort. On peut donner des antidouleurs avant la pose. Il y a plein de techniques de relaxation. Bien évidemment, se sentir en confiance avec son professionnel de santé. Enfin, tout ça, c'est hyper important. On peut se permettre d'écouter de la musique, des trucs qui fonctionnent. Parfois, c'est bête de prendre une sucette parce que le sucre et la succion, ça diminue la douleur.
Intéressant.
Parfois, on prend de... Ouais. Parfois, on peut prendre de l'homéopathie. Enfin, bref, il existe plein de choses. Je ne peux pas nier que ce n'est pas douloureux parce qu'il y a plein de témoignages. Par contre, vraiment, je vous assure que les personnes qui témoignent, en fait, quand ça se passe bien, les personnes ne témoignent pas. Et quand j'en parle avec des sages-femmes, je pense que 99% de nos patientes sont satisfaites de la pose. Je pense aussi que, mine de rien, la douleur et la prise en compte du ressenti des patientes, soyons honnêtes, peu importe le domaine de la vie, on écoute les femmes depuis pas si longtemps que ça. Donc, c'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup plus d'expériences traumatiques il y a plus de 5 ans que ces 5 dernières années post-MeToo, en fait, soyons honnête. Donc voilà, c'est aussi pour remettre les choses dans le contexte et aussi en tant que patient, on peut se permettre de dire aux soignants, en fait, j'ai peur, j'aimerais être rassurée, mais est-ce qu'on peut se dire aussi que si là, même si le spéculum est déjà mis en place, je dis en fait stop, là je le sens pas ou j'ai trop mal, en fait vous m'écoutiez et on se dit stop.
C'est ça, et on revient sur faire confiance aussi à son professionnel de santé, oui. Qu'il y ait un cadre de confiance, qu'on sache que la discussion peut avoir lieu, qu'on soit rassuré sur poser les questions, dire est-ce que je peux avoir des antidouleurs, est-ce que je peux mettre de la musique, est-ce que c'est ok, et même que le ou la professionnelle vienne même déjà avec ça, ces informations-là, parce qu'en fait des fois,
exactement.
on arrive, on ne sait pas, on se laisse faire et on ne sait pas ce qui est à notre disposition si on ne nous informe pas non plus.
Oui, et puis c'est important aussi de se rappeler que en fait, il y a une consultation avant de poser un stérilet. Quand vous choisissez, vous, si vous choisissez seul, que vous savez que vous voulez un stérilet, dans tous les cas, vous allez rencontrer votre soignant juste pour en discuter, pour la prescription qui vous explique comment ça se passe, la pose, etc. Vous n'arrivez pas et on vous pose un stérilet. Donc, il y a cette consultation. Et ici, il faut qu'elle existe deux fois, elle existera deux fois. Moi, ça m'arrive d'en discuter avec des patientes. Je leur explique tout, je leur prescris le stérilet. Je leur dis, je vous laisse réfléchir, vous avez l'ordonnance. En soi, quand vous voulez, vous prenez un rendez-vous pour la pause. Et puis parfois, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, elles reprennent un rendez-vous pour en discuter de nouveau. Et après seulement, on le pose. Et en fait, c'est OK de juste se dire, j'ai besoin d'en discuter. C'est un choix, une contraception. Et le temps d'être rassuré, on a le droit de prendre ce temps-là juste pour soi. C'est pas, parfois, on a peur de déranger, de prendre le rendez-vous de quelqu'un. Non, on a le droit de prendre soin de soi pour en discuter.
Super, merci. Et dans les autres méthodes barrières mécaniques, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, on a les préservatifs internes, externes, ou dits féminins, dits masculins, qui sont quand même les seuls contraceptifs qui protègent des infections sexuellement transmissibles. Donc, dans plein de situations, ça vient coupler une autre contraception au final. Les préservatifs, franchement, en fait, juste tout à l'heure, j'ai parlé de l'efficacité. C'est intéressant que les personnes qui nous écoutent, je trouve, elles regardent les tableaux des indices de Pearl, donc indices d'efficacité. Et vous allez voir, il y a deux colonnes. L'efficacité théorique et l'efficacité en pratique. Souvent, moi, je parle de l'efficacité en pratique, c'est-à-dire en moyenne, les gens comme... parfois, ils oublient. Parfois, il y a une pénétration avant et après, je le mets. Parfois, on reste à l'intérieur et puis le sexe débande et du coup, il y a du sperme qui peut couler. Parfois, ça craque. Bref, forcément, l'efficacité du préservatif, elle est moindre. Mais sinon, en réalité, c'est une contraception plutôt très efficace. Mais comme ça dépend de plein de choses, parfois, ça l'est beaucoup moins.
Quand elle est utilisée de façon optimale, elle est très efficace. Mais on sait aussi que dans la vie, des fois, ça peut être messy. Et du coup, c'est là où il peut y avoir des risques. En fait, c'est quand
c'est ça. On n'est pas des robots.
On n'est pas des robots.
À noter qu'en France, les préservatifs dits masculins en latex, certaines marques peuvent être remboursées avec une ordonnance ou même pour les moins de 26 ans, juste on peut se présenter en pharmacie sans ordonnance et demander des capotes et en avoir sans payer, sans rien et sans montrer sa carte vitale. Donc les parents ne sont pas au courant.
C'est en Belgique aussi. En Belgique aussi, avec une ordonnance et les mutuelles remboursent, quoi.
Trop bien. Et voilà, en fait, les IST, c'est important. Les préservatifs, les gens sont en train d'y revenir petit à petit. Un peu ce que tu disais dans ton parcours de vie, j'entends le parcours de beaucoup de mes patientes aussi qui, pendant longtemps, se disaient c'est pas efficace, c'est nul ou c'est un truc d'ado. Non, l'avantage du préservatif, c'est qu'on n'y pense que quand on a des rapports.
C'est ça.
Et du coup, ça convient aussi à beaucoup de couples, c'est bête, mais qui ont peu de rapports, par exemple. Ça leur va bien de ne pas prendre une contraception tous les jours ou des hormones tous les jours alors qu'on a des rapports trois fois dans l'année.
Parce que quant au calcul, par exemple, oui, effectivement, si on a peut-être un rapport par mois, prendre la pilule tous les jours versus mettre un préservatif une fois dans le mois, ça peut aussi être à considérer.
Ça peut se questionner tout à fait, tout en sachant que la pilule est plus efficace que le préservatif. Donc, ça se questionne dans les deux sens.
Oui, effectivement, ça se questionne. Mais c'est intéressant que tu dises que les personnes, quand même, commencent à y revenir parce que, bien sûr, il y a eu cette mauvaise image, ensuite se dire « ça craque », les hommes dire « c'est trop petit, je suis trop serrée, je débande, ça casse tout, c'est pas romantique, c'est pas sexy ».
Oui, c'est vrai que ça revient. Et puis, encore une fois, selon les moments de la vie, je peux comprendre qu'à 18 ans, tu as envie d'avoir la contraception la plus efficace du monde si tu n'es pas dans un projet bébé. Quand tu as déjà un enfant, que tu te dis « peut-être qu'on aura envie d'un deuxième dans les deux ans à venir », en vrai, si ça craque, ça fait et on prendra la pilule d'urgence, on sait que ce n'est pas efficace à 100%, mais en fait, au pire, on est OK avec le fait d'avoir une efficacité moindre. En fait, c'est ça, dans quelle mesure je suis prête à accepter la baisse d'efficacité probable.
Tu as tout à fait raison. Ah oui, je ne me serais jamais imaginée Ouais, quand j'avais vraiment pas envie d'enfant avec juste un préservatif parce que non, là c'était trop risqué et quelle horreur. Si je, voilà, double contraception, c'était le minimum, quoi, presque. Tu vois, associer plusieurs contraceptions.
Et en méthode barrière, alors c'est moins efficace, mais on en parle moins souvent. Il existe également le diaphragme ou la cape cervicale. Pour imager, ça ressemble un peu à une cup menstruelle, mais plus plate, qui vient littéralement presque épouser la forme du col, donc au fond du vagin, et vraiment créer une barrière, mais qu'au niveau du col, pas sur les parois du vagin. Donc on se doute bien que comme c'est moins englobant que les préservatifs, c'est moins efficace, et donc souvent c'est couplé avec de la crème du gel spermicide, qui vient en plus altérer l'avancée des spermatozoïdes. L'avantage de ces contraceptions-là, c'est qu'elles peuvent être mises en amont d'un rapport. Exemple, ce soir j'ai rendez-vous avec mon crèche, on va sûrement avoir des rapports, en fait je peux mettre mon diaphragme en avance, je suis pas obligée de le mettre pendant le rapport si c'est quelque chose qui me gêne ou que je sais que j'oublie. Par contre, ça doit être retiré plusieurs heures après, alors au moins 6 heures après le rapport pour que la barrière reste. Bien évidemment, il y a un risque que ça se décale, enfin c'est moins efficace. Mais aussi, j'aime bien parler de ces contraceptions là dans d'autres circonstances. Par exemple, personnes qui veulent démarrer la symptothermie, qui bah du coup ont besoin de ne pas avoir d'hormones, de pouvoir observer leur cycle, mais se sentent pas encore tout à fait à l'aise pour faire 100% confiance à cette méthode d'observation du cycle. Et bah ça peut permettre de finalement, OK, j'ai le diaphragme est moins efficace, mais finalement j'ai deux contraceptions que j'estime à ce jour pas tout à fait efficaces puisque je suis pas encore très à l'aise avec la symptothermie. Bah finalement, de manière additionnée, c'est pas mal en termes de contraception.
Ouais, c'est couplé, quoi, c'est ça. Et c'est vrai que le diaphragme ou même la symptothermie, ça peut être aussi utilisé quand, là, on en parlait dans des épisodes, mais quand les hommes utilisent une contraception dite masculine, et que là aussi, pareil, on n'est pas très rassuré, c'est peut-être pas optimal, pas au point, eh bien...
Eh bien oui. Ouais, complètement.
Super. Donc dans les méthodes barrières, donc les préservatifs internes, externes, le dispositif intra-utérin, diaphragme couplé au spermicide, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Et la cape cervicale, c'est la même chose que le diaphragme?
Ouais, c'est un peu le même principe que le diaphragme, c'est un peu plus petit, donc un peu moins efficace pour le coup.
Ok, donc on va plutôt recommander le diaphragme que la cape.
À choisir plutôt, oui.
Ok, ça marche. Du coup, par rapport, tu parlais de la symptothermie, ça fait partie des contraceptions naturelles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces contraceptions?
Oui, et ben ça aussi, on y revient. Alors souvent, quand on parle de contraception naturelle, dans la tête de tout le monde, il y a la méthode du calendrier. C'est-à-dire, en moyenne, j'ai des cycles qui reviennent tous les 28 jours, donc j'ovule au 14e jour, et donc je me protège juste ce jour-là, voire deux jours avant, deux jours après. C'est pas le cas, la symptothermie, c'est pas ça du tout. Toutes les méthodes basées sur le calcul, vraiment, elles sont à proscrire parce que nous ne sommes pas des robots. Vous avez beau être hyper, hyper réglé comme une horloge suisse.
Je sais pas, tu vas y arriver, horloge.
En fait, il suffit d'un événement pour tout dérégler. Sauf qu'en fait, je ne sais pas d'avance si mon cycle à venir va être déréglé. Parce que autant quand j'ai mes règles, je peux me douter combien de jours avant j'ai ovulé, tout en sachant qu'on peut ovuler entre 11 et 16 jours avant les règles. Donc, c'est énorme qu'un ovule peut être fécond 24 à 48 heures et que les spermatozoïdes peuvent attendre bien sagement dans les voies naturelles quasiment jusque 5 jours. Donc, si on rajoute tous ces 5 jours, 2 jours, 5 jours, bah en fait, ça fait quand même beaucoup d'approximatifs. Donc, le calendrier, c'est vraiment à proscrire, encore une fois, sauf si on ne sait pas trop si on a envie d'avoir un enfant et qu'on se dit, bon, si ça arrive l'un dans l'autre, c'est le destin qui l'aura choisi, en gros. Ouais, donc... Mais si on a envie de se protéger d'une grossesse, je ne le recommande pas.
Ouais. Oui, la différence peut-être des calculs, alors plutôt se baser aussi sur l'observation du coup de
Exactement.
Son corps, parce que ça parle c'est peut-être ça. Plus que les calculs.
Exactement, et c'est ça en fait la différence. D'ailleurs, les personnes qui pratiquent la symptothermie, souvent, elles, au lieu de parler de méthode naturelle, elles parlent de méthode d'observation du cycle. Et c'est là, c'est tout à fait différent, parce qu'on se sert de notre corps comme une boussole. Comme je sais que tous les mois, il y a une probabilité qu'il y ait un changement, et bien tout simplement, je vais demander à mon corps où est-ce que tu en es aujourd'hui. Comment je fais pour le savoir? Eh bien, je peux prendre donc symptothermie, c'est les symptômes les symptômes que j'observe plus la température. Les symptômes que j'observe, ça peut être modification de la glaire cervicale. Donc concrètement, tous les jours, eh bien, je peux observer ma glaire qui coule au niveau de ma vulve ou carrément avec en prenant ma glaire à l'intérieur de mon vagin avec mes doigts, et je peux observer sa texture, à quel point elle peut être élastique entre mes doigts, et je le note dans un tableau.
Ouais.
Je peux observer également la consistance et la hauteur de mon col. Donc pareil, en fait, j'insère deux doigts dans le vagin et je sens au bout du vagin le col de l'utérus qui est plus ou moins haut, plus ou moins ferme, plus ou moins avec l'orifice interne, on va dire plus ou moins palpable. Et ça peut me donner aussi une idée de où j'en suis dans mon cycle.
Et ça, c'est à faire tous les jours, justement, aussi, c'est voir la consistance de son col, la hauteur, c'est-à-dire tous les jours, du coup, insérer des doigts.
C'est ça. Alors, je sais que certaines personnes, quand elles sont vraiment très à l'aise avec la symptothermie, ça fait longtemps qu'elles le pratiquent, elles connaissent un peu leur zone plus ou moins autant de jours et elles peuvent s'octroyer quelques jours de pause. Et à ça, on associe la température parce qu'on sait qu'il y a un pic de quelques décimales au moment de l'ovulation. En fait, vraiment, ça se dessine très bien si vous voyez les courbes de température. La température est légèrement plus basse sur la première partie de cycle et elle augmente au moment de l'ovulation et sur la deuxième partie de cycle. La symptothermie, ça demande d'être accompagné. Vraiment, je déconseille de se lancer juste en lisant un bouquin. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas si simple d'être accompagné parce que c'est quand même des méthodes qui se développent à peine. Et donc, c'est pas si simple de trouver des accompagnateurs. Concrètement, aujourd'hui, non, toutes les sages-femmes ne sont pas formées en symptothermie. Moi, par exemple, je n'accompagne pas mes patientes en symptothermie. Je les réadresse à des collègues. Donc, ça demande d'être accompagné, de tester et de se dire, OK, après plusieurs mois, là, je peux me lancer. Également, il y a la méthode Billings qui, elle, se base que sur l'observation de la glaire, pas sur la température. C'est des méthodes, enfin, franchement, quand on regarde l'efficacité théorique, elles sont plutôt très efficaces. Franchement, ça vient jouer avec la pilule, hein, vraiment. C'est souvent décrié, mais en réalité, quand c'est bien réalisé, bah, en fait, le corps donne beaucoup d'infos. Donc, ça peut être des méthodes intéressantes. Comme toutes les contraceptions, des inconvénients, bien évidemment, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est tellement contre la pilule qu'on se dit, mais en fait, tout le monde devrait observer son cycle. De principe, moi, je suis contre les grandes généralités. Ce serait bien trop simple. Chaque personne a son histoire. Et bien, mine de rien, ça demande quand même une discipline et d'avoir envie, en fait, tout simplement.
Et du temps qui peut être un privilège, en fait, pour certaines personnes, aussi pour certaines femmes. Certaines femmes ont plus de temps que d'autres aussi.
C'est vrai. Alors, les personnes qui le pratiquent, souvent, elles disent, d'ailleurs, un peu comme l'anneau thermique, tu vois, les contraceptions dites masculines, elles disent, bah, au final, ça devient tellement un rituel que ce serait comme dire, j'ai pas le temps de me brosser les dents, tu vois. Mais bah, comme c'est individuel et que ça rajoute quand même quelque chose, en fait, souvent, celles qui en ont vraiment envie, c'est pas une plaie. Si vous sentez que ça vous saoule d'avance, bah, c'est que c'est pas fait pour vous, en fait.
Oui, et puis même sans forcément se dire ça va être mon moyen de contraception, mais d'apprendre à connaître son corps, écouter les signaux, c'est quand même bénéfique dans sa vie.
Et complètement. Et du coup, au-delà d'un moyen de contraception, j'invite pour le coup, effectivement, toutes les personnes qui n'ont pas d'hormones à observer. C'est hyper intéressant. En fait, c'est hyper intéressant de se dire à quel point le corps change selon le cycle et puis du coup, comment je me sens, même moi, dans mon corps. Et parfois, il y a des corrélations entre ma glaire cervicale, mon humeur du jour, ma libido. Et c'est intéressant, même si on a un travail plutôt indépendant, parfois on va certains rendez-vous, certains, je ne sais pas, si on doit faire beaucoup, par exemple, de création de contenu. Enfin, concrètement, moi, c'est tout. J'arrête de me dire que je vais faire ça la semaine qui précède mes règles. C'est impossible. Impossible pour moi.
Ouais, c'est super intéressant. Et même intéressant, de connaître son corps aussi quand on a envie d'une grossesse finalement pour repérer les signaux de fertilité et de pouvoir avoir des rapports propices à ces moments-là si on en a envie aussi.
Exactement. Et ça, vraiment, dans le cadre d'un désir de grossesse, mais ça peut tout changer. Et en plus, on pense que du coup, c'est de nouveau la femme qui doit s'observer et la charge mentale pour la femme. Et en fait, quand on en discute avec les personnes qui observent leur cycle, souvent, ça crée une discussion et en fait, le partenaire est également souvent au fait de où est-ce que vous en êtes. Parfois, c'est lui qui vous tend le thermomètre, qui note, ou c'est vous qui faites le, qui observez la glaire et lui qui note, par exemple. Enfin, il y a un côté, on en parle et lui aussi, il sait quand c'est le moment et il voit la régularité. Et c'est pas en mode ok, c'est ta période fertile, je savais pas. Ça paraît bête, mais vraiment, souvent, les retours, c'est que ça implique les deux membres du couple.
C'est génial, c'est vraiment génial. Et c'est vrai qu'on voit un peu plus des hommes même dire, bah voilà, moi aussi, je suis le cycle de ma partenaire, comme ça, bah, j'adapte aussi, comme ça, je comprends mieux certains comportements. Et ça permet une meilleure compréhension et une clé aussi pour le couple.
Exactement.
Top. Et alors, imaginons que j'ai un rapport sexuel non protégé ou peut-être que le préservatif a craqué ou que j'ai oublié ma pilule. Est-ce qu'il existe des contraceptions d'urgence ?
Oui, il existe des contraceptions d'urgence. Est-ce que juste avant de répondre à cette question, je vais juste rajouter un truc sur les méthodes naturelles.
Vas-y.
C'est la méthode MAMA, la méthode avec l'allaitement.
Ouais, vas-y, c'est important.
Donc la méthode MAMA, ça veut dire en gros l'aménorrhée causée par l'allaitement maternel. Pareil, ça fait partie des contraceptions qui sont parfois très décriées, alors qu'en termes d'efficacité, si c'est bien suivi, ça peut être plutôt pas mal. Mais il y a des règles pour la méthode MAMA. C'est donc être en allaitement exclusif, enfin pas forcément exclusif, mais en tout cas avoir au moins 6 tétés par jour, jamais espacer de plus de 6 heures, voire 4 heures en journée, ne pas avoir eu de saignement en dehors des saignements post-accouchement, donc en gros ne pas avoir eu de retour de couche, sinon ça veut dire que le cycle est revenu, eh bien on peut estimer que l'allaitement peut bloquer l'ovulation. Par contre, bah, on n'est pas à l'abri d'un bébé qui dort plus de 6 heures et il y a quand même des personnes qui effectivement ovulent avec l'allaitement.
Je suis la preuve. Parce que en étant en allaitement exclusif, 6 tétés par jour, bien plus que 6 tétés par jour, espacé des fois de 2-3 heures, bah, j'ai quand même eu une ovulation et un retour de couche.
Et bah oui, et en fait, ce qui est un peu traître avec ce type de méthode, c'est qu'en fait, tant qu'il n'y a pas eu le retour de couche, la première ovulation, clairement, la plupart du temps, elle passe inaperçue, c'est vu vrai. Qu'elle arrive et seulement après, on a les règles. Du coup, on ne sait pas qu'on doit être vigilant. En fait, il faut être vigilant tout le temps, quitte à observer son cycle aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, à voir si c'est quelque chose où on se sent à l'aise, parce que le fait de se sentir à l'aise dans sa contraception, peu importe le type de contraception, et d'en avoir conscience, c'est important. Par contre, concrètement, à partir du moment où votre bébé dort plus de 6 heures une fois, vous pouvez estimer que vous ne pouvez plus faire 100% confiance à cette contraception. C'est pas la contraception la plus efficace. Elle peut se questionner. Encore une fois, ça dépend du contexte. Et puis, dans quelle mesure on a des rapports sexuels à ce moment-là de la vie aussi. Mm-hmm. Donc, voilà, tout ça, on le coupe. Mais c'est une contraception qui existe et je trouve qu'elle est importante quand même à partager.
Ouais, c'est de l'information. Et après, comme tu dis, les gens s'informent et font avec le moment T, ce qu'elles ont envie, ce que le couple a envie à ce moment-là aussi.
Et donc, les contraceptions d'urgence. oui, donc il existe la pilule d'urgence, qu'on appelle également pilule du lendemain, et il existe également le DIU au cuivre, qu'on connaît moins. La pilule d'urgence, moi je préfère dire pilule d'urgence que pilule du lendemain, parce que ça prête à confusion, elle peut être prise, il existe deux molécules, une qui peut être prise dans les 72 heures qui suivent le rapport à risque, et l'autre dans les 5 jours qui suivent le rapport à risque. Qu'est-ce qu'un rapport à risque ? Un rapport à risque de grossesse, donc capote qui craque, capote qu'on oublie, oubli de pilule de plus de 12 heures, y compris, donc je reprends concernant la pilule. La pilule, elle doit être prise à heure fixe, donc ça demande d'être régulier, discipliné, etc. Si je l'oublie moins de 12 heures, je suis toujours protégée. Si je l'oublie plus de 12 heures, je ne suis potentiellement plus protégée pour les 7 jours qui suivent. Donc pendant 7 jours, soit j'ai pas de rapport, soit j'ajoute un préservatif. Et en fait, c'est comme si ça annulait ma protection des 5 jours qui précédaient. Et en fait, c'est dans ces cas-là où je prends la contraception d'urgence. C'est si j'oublie ma pilule de plus de 12 heures et que j'ai eu un rapport non protégé les 5 jours qui précédaient, ce qui peut s'entendre vu que j'avais une contraception efficace, oui. Eh bien là, je prends la pilule oubliée, je continue mes pilules comme d'habitude et j'ajoute la contraception d'urgence. Okay. Au plus je la prends rapidement, au plus elle est efficace. Vraiment, c'est incroyable comme l'efficacité diminue entre quelques heures et 3 jours. Donc, le mieux, c'est de la prendre le plus vite, d'aller en pharmacie, voire de demander à votre soignant d'avoir une prescription et d'avoir une contraception d'urgence, une pilule d'urgence dans sa table de chevet pour la prendre au plus vite. C'est pas efficace à 100%, il y a des effets secondaires, ça peut donner des troubles digestifs, des saignements, c'est pas très agréable, mais par contre, c'est quand même efficace, même si c'est pas à 100%. Juste, j'en parle tant que je suis dans l'oubli de pilule, si jamais on oublie sa pilule œstroprogestative dans les 7 derniers jours des comprimés actifs, comme je suis moins protégée les 7 jours qui suivent et que je vais arriver sur ma période de pause, et ben en fait cette fois-ci je ne fais pas la pause et j'enchaîne tout de suite la pilule suivante et donc je fais sauter les règles.
D'accord, ouais.
Tout ce que je dis là c'est noté sur la notice, donc quand j'ai un oubli de pilule je regarde ma notice de pilule ou j'appelle le numéro vert du planning familial ou enfin voilà. Ou je prends une téléconsultation, ou j'en parle à mon pharmacien. En tout cas, je m'informe au plus vite.
Bien de le rappeler. À qui on peut faire appel dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on peut vite paniquer, on ne sait pas à qui demander.
Bah oui, et ça change quand même les choses d'avoir une réponse dans l'heure ou une réponse dans les 3 jours. Et enfin, le stérilet au cuivre, ça peut être une contraception d'urgence qui peut être mise en place dans les 5 jours qui suivent le rapport à risque. L'avantage, c'est que c'est fait, c'est plutôt très efficace. L'inconvénient, c'est qu'il faut une consultation, avoir son stérilet, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple que ce soit le cas. C'est là où, franchement, je trouve que les plannings familiaux jouent un rôle assez extraordinaire là-dessus. Mais franchement, c'est le genre de motif où on peut se permettre d'appeler son soignant en disant, en fait, est-ce que vous avez une dispo rapidement ? Ou, en fait, même un soignant qu'on ne connaît pas. Si vous vous posez la question du stérilet au cuivre et que vous avez un rapport à risque, c'est le moment de plus poser la question.
Ouais, et de pouvoir appeler sans honte, il faut agir vite et efficacement et voilà, ça arrive à tout le monde aussi hein, d'avoir des rapports à risque.
Hyper juste ce que tu dis, sans honte. Parfois, on se sent jugé par les soignants, par les personnes au comptoir de la pharmacie, que ce soit en demandant une contraception d'urgence, que ce soit aussi parfois, je reviens aux très jeunes qui vont aller chercher des préservatifs. En fait, si quelqu'un vous juge alors que vous... Clairement, vous avez un acte extrêmement adulte et responsable, en fait, en faisant cet acte-là. Le problème ne vient pas de vous. Ouais. Et ce que vous ressentez le jour où vous avez un test de grossesse positif sur une grossesse non désirée, alors que vous, par peur d'être jugé, vous n'avez pas pris le pas d'aller en pharmacie, chercher des préservatifs, chercher si prendre rendez-vous, etc. En fait, la honte, elle est encore plus importante si c'est la honte que vous cherchez à éviter. Donc, vraiment, les personnes qui vous jugent dans le domaine du soin, c'est toujours le problème du soignant. Un soignant ne doit pas juger ses patients, doit le prendre tel qu'il est. Voilà, c'est simple à dire, on est tous humains, mais en fait, si vous vous sentez jugé, peu importe le domaine, par un soignant, le problème ne vient pas de vous.
Important.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, parce que parfois, on est humain et on ne se rend même pas compte qu'on a l'air de juger, et si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Donc, n'hésitez pas à juste remettre les choses au clair avec le soignant. Si ça vous surprend, il y a des personnes qui jugent réellement et d'autres, peut-être qui ne s'expriment pas parfaitement. On apprend aussi dans la discussion avec nos patients, donc ne rompez pas forcément le lien. N'hésitez pas à dire j'ai pas compris, est-ce que vous êtes en train de me juger ? Et en fait, vous allez tout de suite vous rendre compte si votre soignant vous dit « Ah non, ok, je me suis mal exprimée ». Enfin, voilà, vous avez le droit de poser la question.
J'aime bien cette phrase, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident hein, de confronter comme ça à son professionnel ou sa professionnelle de santé et dire « Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris, mais est-ce que là, c'est du jugement ?» Et vraiment de poser la question. Et comme tu dis, encore une fois, c'est une discussion. Et ça montre aussi ce lien de confiance, en fait, qu'on établit avec la personne en face de nous.
C'est tellement une clé. Je trouve que vraiment, la confiance, c'est hyper important dans la contraception. Et ça me permet d'ajouter, tu vois, je parlais d'efficacité de la contraception. Il y a des études qui montrent que choisir soi-même sa contraception, ça ajoute de l'efficacité à la contraception. Je m'explique. L'implant, ça a beau sur le papier être concrètement la contraception la plus efficace. En plus, il est là. Mm-hmm. En réalité, s'il est posé un peu par force, par non-choix, au bout d'un moment, la personne va prendre rendez-vous pour l'enlever, que ce soit si la personne qui l'a posé refuse de l'enlever, elle trouvera quelqu'un. Mm-hmm. Et cette personne-là, elle aura tellement perdu confiance et en la contraception et chez les professionnels de santé qu'il y a de fortes chances qu'elle ne reprenne plus de contraception et qu'elle prenne des risques. Choisir sa contraception et l'aimer, clairement, l'apprécier pour ce qu'elle est. Hein. J'allais dire comme un être humain avec ses défauts et ses qualités.
Je t'aime comme tu es.
Et ben c'est aussi ça joue dans l'efficacité. Donc la campagne de prévention de qui date de 2013, la meilleure contraception c'est celle qui choisit, elle est hyper vraie. Elle est hyper vraie et c'est pour ça que tout ce que on a pu dire avant, si à un moment donné vous êtes dit punaise, elles sont hyper strictes sur telle contraception, et ben c'est que j'ai pas apporté assez de nuances parce que une contraception dépend de la personne qui la prend, de ce qu'elle ressent quand elle y pense, de son mode de vie, est-ce que c'est chiant, est-ce que c'est pratique, est-ce que ça dépend de tout ça. Et donc, la contraception, c'est le lien de confiance, c'est la discussion avec ses partenaires, avec son professionnel de santé. Vraiment, il n'y a pas de grande vérité pour la contraception.
J'adore. On pourrait terminer là-dessus, mais il y avait quand même une chose aussi à dire, parce que là, on parlait des contraceptions. Et alors, imaginons que je ne souhaite pas d'enfant ou que j'ai déjà eu des enfants et que je n'en souhaite plus, quelles sont les contraceptions par stérilisation ou ce qu'on dit les contraceptions définitives qui peuvent exister ?
Eh bien oui, effectivement, si je ne souhaite pas ou plus d'enfants, il existe ce qu'on va appeler les stérilisations ou les contraceptions définitives. En l'occurrence, quand on a un utérus, vu que moi je reste sur ce cadre-là, j'ai bien compris que je passais la main pour la vasectomie à quelqu'un d'autre. La ligature des trompes, du coup, c'est le principe de clairement couper le canal que sont les trompes. Donc, il y a l'utérus, l'ovaire qui sécrète les gamètes et les deux sont reliés par les trompes de Fallope. C'est dans les trompes que se rencontrent les gamètes. Si les spermatozoïdes ne peuvent plus aller d'un côté de la trompe et les ovocytes ne peuvent plus aller de l'autre côté, il n'y a pas de rencontre et donc il n'y a pas de grossesse. À savoir que la contraception définitive, la seule règle, c'est d'être majeure. Donc en réalité, normalement, elle peut être pratiquée même chez les personnes qui n'ont pas d'enfants et d'avoir un délai de 4 mois entre la consultation d'information et la réalisation de l'opération. Cette opération, elle se réalise donc à l'hôpital par un ou une gynécologue, par célioscopie, donc c'est-à-dire quand on fait les 3 petits trous dans le ventre. Il existait la méthode des ressorts, la méthode Échure, qu'on ne pratique plus du tout, il y a eu plein d'effets secondaires, etc. Donc forcément, c'est une opération qui demande une anesthésie, qui demande des petites cicatrices, etc. Bien évidemment, oui, il y a des gynécologues qui refusent, chez les personnes qui n'ont pas eu d'enfants ou chez les personnes qu'ils estiment trop jeunes, de faire des stérilisations.
Est-ce qu'elles ont le droit de refuser ?
Oui. En fait, comme l'interruption volontaire de grossesse, j'ai perdu le mot que je cherche, ça porte un nom, la clause de conscience. En fait, tu peux jamais forcer un soignant à faire un acte. C'est bête, hein. Là, c'est parce que c'est des actes qui engagent et on peut se poser la question en termes de valeurs, de jugement éthique, etc. Mais par exemple, moi, je suis sage-femme libérale et qu'est-ce que je ne pratique pas qu'une sage-femme pratique ? Bon, en l'occurrence, j'ai pas le DU d'échographie, mais... j'ai pas d'exemple. Bon, en soi, je pratique de la gynéco, mais en soi, je ne suis pas obligée de pratiquer de suivi gynécologique. C'est pas parce que je suis sage-femme et que j'ai le droit de le faire que si une patiente se présente, je vais lui dire, je vais poser votre stérilet. Si je me sens pas à l'aise, si j'aime pas et si j'ai envie de faire que de l'obstétrique, j'ai le droit et on peut pas m'attaquer pour ça.
D'accord.
Du coup, effectivement, en soi, on a le droit de refuser ou on a le droit de se dire, franchement, moi, ça vient trop me confronter d'un point de vue éthique, j'arrive pas à faire cet acte chez une personne qui n'a pas d'enfant. Au même titre qu'en fait, les soignants ont le droit de refuser de faire des interruptions volontaires de grossesse. Par contre, normalement, déontologiquement parlant, on se doit de réadresser la personne. En fait, dire « vous êtes trop jeune, personne le fera », c'est faux. Et ça, par contre, c'est pas déontologique. Dire, en fait, je suis désolée, moi, je ne le pratique pas, peu importe l'histoire, il y a aussi des personnes, soyons honnêtes, qui ont regretté, et c'est très dur à vivre en tant que soignant d'avoir le retour de quelqu'un qui a dit, vous avez accepté quand j'ai 25 ans, maintenant j'en ai 35 et je le regrette et c'est de votre faute, vous auriez dû me dire. Ça peut clairement traumatiser le soignant, donc j'ai pas envie de juger les personnes qui juste ne souhaitent pas le faire. Par contre, effectivement, les personnes qui n'orientent pas, qui ne donnent pas des noms de personnes qui acceptent de le faire, là, en fait, la médecine paternaliste, c'est terminé, c'est tout. On est en 2023 maintenant, on arrête. Les patients sont responsables de leur santé, ils ont un délai de réflexion. Si on a un doute, on peut leur dire... On peut encore une fois créer ce lien de confiance et en discuter, mais non, on doit réorienter. De toute façon, les patients trouveront quelqu'un.
C'est ça.
Donc franchement, arrêtons de les dégoûter de la santé, arrêtons de les dégoûter des professionnels de santé. Les patients n'ont plus envie d'aller consulter parce qu'ils n'ont plus confiance, parce que les soignants manquent de bienveillance, sont parfois maltraitants, etc. Donc accompagnons dans la mesure où nous, on se sent en accord avec ça, mais accompagnons les patients. Donc, en fait, oui, on a le droit, mais déontologiquement, on doit réadresser.
C'est ça, c'est toute la nuance, c'est de réorienter la personne. Ok.
C'est ça.
Alors, ma dernière question pour toi, voilà, si les gens ne devaient retenir qu'une chose, là, les gens qui nous écoutent, si elles devaient retenir qu'une chose de l'éducation sexuelle, voire de la sexualité, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, la première chose qui te vient en tête ?
En général ou concernant la contraception ?
Tu peux faire en général.
Ça marche. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de l'éducation sexuelle ? Je pense que l'information, quelle qu'elle soit, elle est essentielle. C'est jamais un tort de vouloir s'informer. C'est toujours pareil, c'est important de ne pas tomber dans l'excès, de toujours nuancer et de toujours contextualiser. Les personnes qui disent toujours et qui disent jamais ont souvent tort. Les personnes qui essaient de convaincre à tout prix également. Parce que je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est que chaque histoire est tellement individuelle en termes de contraception, de choix de vie, de sexualité, qu'on prend les informations et après, on les adapte à nous. Je pense que s'il y a un truc que je voudrais que les gens retiennent, c'est que la plupart de ce que vous pensez et la plupart de vos envies sont légitimes et normales. Hmm. Voilà.
Merci. Merci pour ce super cours d'SVT. Enfin, tu vois, tout du long, je me disais, mais c'est tellement clair, c'est tellement bienveillant. J'aurais aimé t'avoir en cours et les personnes qui t'ont ont de la chance. Et même merci. De me dire, mais même pour les professeurs ou si vous avez des enfants, adolescents, jeunes adultes, de leur partager cet épisode parce qu'il est, il est clair, il est précis. Tu viens apporter extrêmement beaucoup et je sais que ça te tient à cœur la nuance. Vraiment dire qu'il n'y a pas de voilà, tu essaies de rester la plus neutre possible en donnant les plus, les moins et toujours en étant la plus juste possible. Donc, merci pour toutes ces informations qualitatives.
Merci Camille. Merci.
Je suis sûre que les gens vont avoir envie de te retrouver. Alors, où est-ce qu'on peut venir te voir sur ta chaîne YouTube, Instagram, dis-nous tout.
Exactement. Donc, vous pouvez, donc, je diffuse plein d'informations comme là, ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc, sous le nom charline.sagefemme, sagefemme tout collé, sur ma chaîne YouTube, Charline Sagefemme. J'ai également un TikTok. J'ai également un podcast, oui. Un message de Charline Sagefemme, où là, je donne plus des informations sur l'avant-grossesse, le postpartum, plus ciblé obstétrique. Et prochainement, peut-être, je ne sais pas quand sort cet épisode.
Cet épisode sera en février, il sort, je veux dire le 16 février.
Ça marche. Eh bien, j'aurai sûrement lancé mon autre chaîne de podcast, du coup, qui sera des conversations avec des femmes et des personnes menstruées autour du cycle et de la... Qu'est-ce que c'est, en fait, d'être une femme? Qu'est-ce que c'est que d'avoir ses règles? Voilà, donc un podcast de discussion qui sera sûrement lancé tout au début février.
Trop bien, mais oui, je me souviens, tu m'avais montré le visuel quand on s'est vu.
Exactement. Oh,
génial.
Et qui va s'appeler Menstrual Story. Du coup, c'est la première fois que je le dis en public, parce que je sais que cet épisode sortira. Donc, au moins, je m'engage. Je suis obligée de le sortir avant.
T'es obligée. De toute façon, on va te pousser. Hein. Là, c'est une exclusivité. Et donc, restez aux aguets pour suivre ce podcast. Et si jamais elle ne l'a pas sorti, vous allez sur son compte Instagram, oui. YouTube, TikTok, oui. Charline. Diffuse-nous tout ça parce que ça va être super intéressant.
Ouais, j'ai vraiment hâte.
Merci beaucoup pour ton temps, Charline, et tout ce que tu fais comme
Camille.
Travail. C'est vraiment précieux.
Et j'en profite, si jamais vous avez bien aimé nous écouter toutes les deux, Camille et Charline, et bien il y a également une vidéo, alors vous écoutez ce podcast, il y a également une vidéo sur ma chaîne YouTube où on parle de sexualité après l'accouchement avec Camille.
Yes, je vais la mettre aussi, tu as bien fait de le mentionner. Merci beaucoup Charline, merci à toutes
merci
les personnes
à toi,
qui
Camille.
Nous ont écoutées. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Et si vous écoutez ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout de l'épisode. Donc merci pour votre intérêt, merci pour votre enthousiasme. Et donc j'imagine que cet épisode vous a plu, a suscité des choses pour vous. D'ailleurs, dites-le moi, qu'est-ce que cet épisode vous a suscité? Qu'est-ce qu'il vous a appris aussi de l'intimité, de votre sexualité? Laissez dès à présent des étoiles, des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, voire même un avis, ça fait toujours plaisir. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à une amie, à votre voisin, à des patientes, à des clients, ou même à votre partenaire, partagez cet épisode avec un message tout doux. Nous pouvons bien sûr échanger sur mon compte Instagram Camille Parle Sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon, où je partage également des informations sexo, alors n'hésitez pas à me suivre. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.